France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Claudine, c'est moi et ce n'est pas moi. Ça a peut-être été un petit moi d'autrefois dans le plus sympathique que je pourrais dire, c'est une sorte de sauvagerie dynastique. Aveu, en mineur, de Colette. Nous étions tous, mes frères et moi, ajoutait-elle, des fervents de la campagne pure, des animaux sauvages que l'on y trouve, des plantes. Alors, s'interrogeait André Parineau à propos de la série des Claudines, quid des passages de sentimentalité sensuelle? Est-ce une autobiographie romancée? Voici deux volets de cette série d'entretiens diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale les 27 février et 3 mars 1950.
Nous terminons aujourd'hui l'étude des rapports existants entre Claudine à Paris et votre vie. Et je voudrais qu'au terme de ce troisième entretien apparaissent les relations entre vos thèmes romanesques, vos personnages et votre propre existence.
Je voudrais savoir si Claudine à Paris est, par une façon quelconque, une sorte d'autobiographie romancée.
Oh non, elle n'était pas une autobiographie. Ni romancé ni autre, je ne vois que une fantaisie qui aurait voulu être romanesque et que je trouve depuis bien insuffisante. Oui, vraiment.
Vous êtes assez sévère cependant. Dans Claudine à Paris, il y a une quantité de personnages, de situations qui ont existé, qui vous sont personnelles. Par exemple, vous avez choisi la rue Jacob, n'est-ce pas, pour y faire habiter Claudine. Vous y habitiez.
Oui.
Vous y habitiez aussi.
Je ne peux pas vous dire que j'en ai gardé un souvenir très gai, mais enfin, je n'ai rien à reprocher à la rue Jacob. Non, vraiment.
Est-ce que vous avez encore un souvenir de cette rue Jacob?
Un souvenir de la rue Jacob, mais oui. Il y avait en face des numéros pairs. Il y avait sans doute un hôtel assez modeste, mais où habitait une divinité magnifique, qui était un superbe chat angora, déjà, vous voyez, déjà, le chat angora. Et une ou deux fois par semaine, on mettait dans la cour de l'hôtel, ses maîtres très dévoués, mettaient dans la cour de l'hôtel un tobe avec un broc d'eau tiède et le savon. Et quand tous les apprêts étaient disposés, le chat angora descendait trois marches et entrait lui-même dans son tobe.
Vous aviez déjà l'amour des chats.
On est avec, on ne l'a jamais.
Vous aviez également votre chat à ce moment-là, rue Jacob.
Oui, j'avais une chatte qui était de celle dont on ne dit rien, vous savez, c'est-à-dire dont ne disent rien. Les gens qui n'aiment pas assez les chats.
Et vous, que pouvez-vous encore en dire de cette chatte?
De cette chatte, elle m'avait été léguée par la famille d'un consul de Suède qui s'en retournait dans son pays, alors ils avaient laissé la chatte. Alors j'avais pris la chatte. Vous voyez que ce sont je vous raconte là des anecdotes qui se passent, Dieu merci, de toute importance.
Oui, mais enfin, je vois déjà un parallèle. Vous habitiez rue Jacob, Claudine habitait rue Jacob, vous aviez votre chatte, Claudine avait sa chatte, Claudine avait sa bonne. Est-ce que vous aviez aussi votre bonne à cette époque?
Ah oui, j'avais amené de mon village l'aînée d'une famille d'une douzaine d'enfants, celle du facteur rural de Saint-Sauveur. Encore une histoire dénuée d'importance, mais... vraiment, ou d'ailleurs, je préférerais que vous ne m'arrachiez que celles-là, que celles qui n'ont aucune importance.
Je tâcherai de faire mieux quand même. Passons à une autre rue maintenant, madame. Je voudrais savoir si la rue Bassano, où habita Renaud, évoque pour vous quelque chose de particulier.
Oh oui, elle évoque certainement quelque chose de particulier, en ce sens que quand j'écrivais que mon héros, si j'ose l'appeler ainsi, habitait rue de Bassano, je me souviens parfaitement que je ne savais pas où était la rue de Bassano, mais en somme, je n'avais pas besoin d'elle.
Je voudrais savoir maintenant si, comme toute nouvelle parisienne, vous avez fait la découverte des maisons de couture. Et de quelles maisons de couture alors ?
Oh non ! Les années ont passé assez nombreuses avant que j'aie le moyen, et l'envie d'ailleurs, d'explorer les maisons de couture. Je me suis contentée parfaitement d'une petite couturière des Batignolles qui s'appelait Madame Pendanx.
Est-ce que l'on peut savoir quel était, à ce moment-là, vos goûts pour la mode ?
Vous savez, ils n'ont guère changé, je crois, si je les regarde bien. Avec une bonne jupe plissée et puis une blouse chemisier et un veston, vous pouvez voir sur moi aujourd'hui même que je ne porte guère autre chose.
Dans vos souvenirs, subsiste-t-il encore le moment de la découverte des grands magasins ? Vous consacrez tout un passage de Claudine à Paris aux odeurs des grands magasins, particulièrement aux odeurs de tissus. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce souvenir ?
Non, car là, je crois bien qu'il s'agit de Claudine à Paris, n'est-ce pas ? Si j'ai encore un souvenir de ce volume, il est assez mince, de toutes les manières d'ailleurs. Méfiez-vous de ce petit passage, même s'il est très court, sur l'odeur des tissus, parce qu'à ce moment-là, j'ai peur de découvrir que je tirais à la ligne.
Je voudrais maintenant vous questionner sur les personnages de votre roman. Tout d'abord, Marcel, le joli cousin en sucre de Claudine. Quelle réalité avait-il ?
On pourrait bien dire qu'il n'en avait aucune, sauf que le va-et-vient dont nous avons parlé, qui avait lieu dans la maison de la rue Jacob, comportait bien ça et là quelques jeunes gens qui s'inquiétaient de cravates à Londres et de vêtements bien coupés. Et je ne dis pas tout.
Est-ce que M. Willy vous a inspiré ce personnage ? Est-ce que le goût du piquant de M. Willy vous a inspiré ce personnage ?
Je ne sais pas, je ne me souviens pas. J'ai oublié. Dieu merci, j'ai oublié pas mal de choses dans ma vie. Mais là, vraiment, si... Non, ce n'est pas qu'il me l'ait inspiré. C'est plutôt qu'il m'aurait poussé dans ce sens-là.
Et Renaud, que représente-t-il exactement pour vous ?
Oh, pas même autant qu'un fantôme.
Un rêve, peut-être ?
Non, même pas. Oh, il n'a pas la dimension, ou les dimensions d'un rêve. Un rêve, c'est mieux que ça, c'est plus beau que ça. Si j'avais déjà à ce moment-là écrit à propos d'un rêve, j'espère qu'il aurait été mieux que ça.
Certains ont vu dans le personnage de Maugis, M. Willy, est-ce exact ?
Ah oui ! Ah, ça, c'était sur commande. Sur commande et même sur Maugis, en tant que portrait et en tant que personnage, si je peux dire, romancé. Ça, c'est plutôt le fait, rendons à César, c'est plutôt le fait de M. Willy.
Cette réponse m'amène à vous poser une question sur la composition de votre livre. De quelle façon M. Willy était-il mêlé à cette composition ? Vous dites par exemple que sur commande, il vous commandait un personnage. Cela veut dire donc qu'il connaissait le thème du roman, qu'il en connaissait le genre, qu'il connaissait le nombre de personnages.
Oui, jusqu'à Claudine à Paris, ça a été comme ça. Claudine à Paris incluse.
Vous discutiez donc avec lui avant de faire votre livre, du thème du livre ?
Oh non ! Oh non, parce que ça, je crois que ça m'aurait tellement découragé que j'aurais pas fait le livre après. Non.
Alors c'est
après coup. Oui, après coup.
Il vous commandait des modifications, il vous imposait un nouveau personnage.
Mais oui, si.
Qu'il sut rajouter.
Si je n'étais vraiment un peu trop cloué à ce divan, je pourrais encore vous montrer quelques pages des anciens manuscrits que j'ai gardés. Avec les notes et les annotations en marge.
Je voudrais savoir aussi si les trois amis que vous dépeignez sous le nom de Baville, Breda et Della Sugues sont des fantômes représentatifs.
Non, pas du tout. C'est dans le moment où j'ai commencé à fréquenter des maisons où on faisait de la bonne musique et des concerts excellents que je rencontrais parmi d'autres, ce charmant garçon, qui étaient tous les trois de très bons musiciens. L'un, Bagès, qui chantait mieux que personne, et puis Pierre Onfroy de Bréville, que nous avons eu le regret de perdre assez récemment.
Et les deux personnages qui sont peints sous le nom du critique Bellaigne ou de Clovitz, que vous dépeignez comme ayant une face de gorille, est-ce qu'il y a des relations?
Ce n'est pas de moi. Rendons à César. Ne négligeons pas de rendre à César chaque fois qu'il le faudra. Non, ça c'était des petites adjonctions. Mais parce que M. Willy était brouillé avec eux.
Vous avez parlé à propos de Cline à l'école de péché de jeunesse quant au comportement de votre héroïne. Je voudrais savoir comment vous qualifiez l'attitude de Claudine à Paris. Est-ce que vous êtes aussi indulgente à son égard, personnellement, ou bien est-ce que vous considérez que ce personnage a été entièrement fabriqué et qu'il n'a aucune importance pour vous en tant que héroïne?
Non, il n'a pas d'importance. Laissons-le à son absence d'importance. Je trouve qu'il y est si bien.
Est-ce que vous pourriez me dire d'où vous avez extrait certaines chansons que vous prêtez à votre père?
Je ne les lui prêtais pas. Je les lui laissais autant que possible. Ça vient d'un répertoire, puisqu'il avait été capitaine de Zouave. Ça vient d'un répertoire vraiment militaire.
Pourriez-vous me dire quelle a été l'influence et l'accueil de la critique à ce second volume?
À ce second volume? Non, j'ai oublié.
Et les réactions?
Je ne pensais pas, vous savez.
Les réactions de M. Villiers, avez-vous également oublié?
Je pense qu'elles ont été agréables. Parce que je crois que ce sont les volumes qui se sont successivement et après ça en même temps vraiment bien vendus. Mais je ne m'en souviens pas.
Pourriez-vous me donner quelques précisions maintenant sur la façon de travailler de M. Willy? Vous nous dévoilez là tout un angle, n'est-ce pas, un peu particulier. Comment organisait-il son travail? De quelle façon rassemblait-il les gens qui travaillaient pour lui? Quels gens travaillaient pour lui?
Mais je vous ai déjà cité, au point de vue romanesque, en même temps qu'au point de vue musicographie, je vous ai cité Kurnonsky. Je vous ai cité un charmant type qui est mort et qui s'appelait Paul Barlet. Je vous ai cité Villermoz. Je vous citerai, il y avait Jean de Tinan, il y avait André Lebay, il y avait Stan Golestan, qui en a gardé un souvenir assez acide. Il y en avait d'autres. Il y avait Eugène de Solnières qui est allé chercher en Allemagne les documents sur le mariage de Louis XV, sur des manuscrits d'une bibliothèque allemande. Je crois que c'était à Bonn, mais là aussi j'ai un peu oublié.
En tout cas, tous ces gens travaillaient pour M. Willy,
oui,
qui les utilisait assez couramment. De quelle façon? Est-ce qu'il leur demandait un ouvrage ou bien est-ce que ces gens lui proposaient un ouvrage?
Je ne sais pas. Je n'étais pas dans ses confidences. C'est à ça qu'il faut penser. Pourquoi m'eût-il mise dans des confidences comme celle-là? Mais les véritables écrivains, qui étaient mes camarades, et vraiment des très bons camarades, alors là, nous n'avions pas tant de dissimulation. Et nous avions pris un terme pour parler de nos travaux qu'aucun de nous ne signait, nous appelions ça travailler aux ateliers. Avec Kurnowski, ça s'appelle encore comme ça. On parle de travailler aux ateliers. Il vient d'arriver un volume de musicographie que voici, il est arrivé hier. Si vous voulez bien constater vous-même, il est dédicacé d'une façon affectueuse à Colette. En souvenir de nos années d'apprentissage, un de ses camarades d'atelier.
Je voudrais savoir si, à la suite de la publication de ce second volume, vous avez pris une plus nette conscience de votre valeur d'écrivain.
Ma valeur d'écrivain, vous savez, ma valeur d'écrivain, c'est une question qui ne m'est pas agréable, là, parce que, dans ce cas-là, je serais forcée de vous parler en même temps d'un certain complexe d'infériorité qui n'a pas été sans me gêner souvent dans la vie, ou du moins dans ma vie d'écrivain.
Je voudrais savoir aussi, c'est une question qui est corollaire, si la fréquentation d'un garçon comme Marcel Schwab, par exemple, ne vous a pas éclairé sur vous-même pour une grande part, ne vous a pas orienté aussi.
Non, mais j'étais quand même, non, pas du tout. Mais j'étais tout de même, j'étais seulement flattée de penser qu'avec tant de gentillesse et tant de condescendance, le mot n'est pas trop fort, j'étais flattée qu'il voulût bien causer longuement avec moi. Qui était un petit bout de jeune femme, n'est-ce pas, pas grand-chose, en somme, à ce moment-là.
Vous ne pensez pas que Schwab ou d'autres ont eu une influence à cette époque-là sur votre orientation, sur votre façon de voir le monde?
Non, je crois pas. Oh non. Moi, je crois d'ailleurs que des grands types comme Schwab et d'autres hommes intelligents, moins prestigieux que lui, ils n'auraient pas été si attachés à moi et si affectueusement si j'avais été différente de ce que j'étais dans ce moment-là, c'est-à-dire, je vous dis, un petit bout de bonne femme avec des longs cheveux.
Du caractère de Claudine, vous écrivez, elle avait le besoin d'étonner, la soif de troubler la quiétude des gens et d'agiter les existences trop calmes. Ça lui jouera un mauvais tour, je ne sais pourquoi, mais j'imagine un peu la Colette que vous étiez alors de cette sorte.
Eh ben, j'ai le regret de vous dire que vous vous trompez totalement et qu'il n'y avait entre ces traits du caractère de celle que vous appelez Claudine et le mien aucune espèce de ressemblance ni même d'analogique.
Est-ce que vous pouvez faire l'effort de vous définir? Comment étiez-vous alors? Une petite Comment fille bien sage
Oui, j'avais des grands cheveux, des très longs cheveux, comme ma demi-sœur aînée aussi. Une petite figure gentille, un aspect un peu non pas débile, mais un peu pâle, parce que je ne voulais pas sortir, je n'aimais pas connaître Paris. Alors ça ne fortifiait pas ma santé à ce moment-là. J'avais des très longs cheveux. Vous voulez que je vous parle de mes longs cheveux, maintenant qu'ils sont si courts? Eh bien, quand j'avais 15 ans et demi, on m'a conduite à une chose qui était une grande solennité dans ces temps lointains, c'est-à-dire le salon de la Nationale. Il y avait un grand escalier à monter, et comme ma mère m'avait dit qu'il fallait que je fisse attention à mes longs cheveux, qu'elle aimait beaucoup, elle les aimait bien plus que je ne les aimais moi, parce qu'ils m'encombraient, et alors j'avais réuni mes deux nattes en avant par un petit ruban qui était dans le bas de ma jupe. Et je me souviens qu'en montant l'escalier du salon de la Nationale, je n'ai pas pris garde à mes longs cheveux. J'ai mis le pied en montant sur le bout de mes nattes et je me suis fichu la figure par terre.
Une anecdote charmante. Je voudrais maintenant que vous nous donniez une précision. Vous venez de nous avouer que à votre arrivée à Paris, vous avez été malade. Or, je me souviens que Claudine à Paris débute justement par la maladie de Claudine.
Mais ça ne regarde personne. Et vous ne saurez simplement, oui, j'ai été malade, c'est tout, j'ai été malade. Et ma mère est venue pour me soigner.
Est-ce que quand même je peux vous demander quel genre de maladie? Vous nous avez avoué que vous aviez éprouvé une grande détresse en arrivant à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre cette maladie et cette détresse?
Là, je vous éclairerai mal aussi. Je n'aime pas parler. Non, je n'aime pas parler de ça.
Vous pourriez peut-être en tout cas alors me donner, pour un autre sujet, des précisions sur vos découvertes littéraires. Vous parlez de Francis Jammes, à ce moment-là, dans Claudine à Paris. Francis Jammes qui vous a beaucoup, qui vous a appris énormément de choses en ce qui concerne l'amour des bêtes, les jardins démodés, et la gravité des choses stupides de la vie.
La gravité des choses stupides de la vie, c'est sûrement pas une phrase de Francis James.
Non, mais non. Elle est de vous.
Oh, oh, je me préparais déjà à en avoir honte. Vous voyez que je vous attendais. Francis James, oui, je ne l'ai jamais vu. Ça s'est trouvé comme ça. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous nous sommes écrits des lettres presque tendres, ma foi. Elles étaient bien jolies, elles sont bien jolies, les siennes. Vous pensez bien que je les ai gardées tout de même, n'est-ce pas?
En tout cas, est-ce que la découverte de Francis James coïncide avec ce livre? Vous l'avez découvert à quelle époque et de quelle façon, Francis?
Quel livre?
Avec Claudine à Paris.
Oh, je
c'est
sais
la première
pas.
Fois que vous en parlez, enfin, dans votre second volume, vous parlez de Francis James.
Ah, je ne sais pas.
Et
c'est
Jules,
possible.
En ce qui concerne le théâtre, Jules Renoir, par exemple, vous dites que vous avez découvert la coupante netteté de Jules Renoir qui vous ravit dans son théâtre.
Oui. C'est un enthousiasme qui a dû être à ce moment-là réel, du moins j'espère pour moi. Mais il m'a un peu quitté depuis ce temps-là, vous savez. Vous venez trop tard, il y a trop longtemps.
Ce quatrième entretien qui s'alimente des événements, des personnages et des sujets dont vous traitez dans Claudine en ménage doit permettre de dégager des silhouettes, des anecdotes et plusieurs aspects de votre visage de jeune écrivain. Nous passerons ensuite à Claudine s'en va, qui marque déjà un tournant de votre vie.
En 1902, vous écrivez et paraît Claudine en ménage. Précisez-nous si vous l'avez écrit dans les mêmes conditions, morales toujours.
Oh, dans des conditions vraiment à peu près identiques que les deux premiers.
Je vais vous poser une question indiscrète, mais je voudrais savoir pour quelle raison une jeune femme douée comme vous l'étiez à l'époque a accepté si longtemps la tutelle de M. Willy.
Ouais, évidemment, ça ne peut pas vous paraître naturel, mais moi, ça me paraissait simplement inévitable parce que si j'avais voulu suivre mon penchant, ou presque la nécessité où j'étais, je ne l'ai pas suivi parce que il aurait fallu pour ça que je quittasse M. Willy et que je retourne à ma famille. Je n'avais pas d'autre refuge. Or, je ne voulais absolument pas, mais absolument pas, que ma mère découvrît que je n'étais pas heureuse. Et puis, il faut songer tout de même, il fallait songer tout de même à la nécessité matérielle de certaines choses. Or, comme on dit, je n'avais pas le sou, et ma famille non plus. Alors, il fallait leur retourner là-bas en dépouillée, en personne qui a raté sa vie par sa seule faute d'ailleurs. Alors, je suis restée où la chèvre est attachée. Il faut qu'elle broute.
Je voudrais toujours vous poser la même question que je vous pose au début de chaque ouvrage. Quelle est la part de votre vie personnelle dans ce troisième ouvrage?
De ma vie personnelle? Oh, ne vous en faites pas, elle était bien calme, allez. Ne vous laissez pas raconter d'histoire par un petit auteur de 25 ans. N'est-ce pas?
En tout cas, les personnages dans ce troisième ouvrage, ont existé également.
Lesquels?
Eh bien, je prends par exemple le picassiette académicien Gréveuil.
Non, ça ne me regarde pas. C'était le moment, je m'en souviens très bien, c'était le moment où M. Willy venait de se brouiller avec Anatole France.
Et il s'est vengé en brossant
cette silhouette. Oui, comme ça, enfin, il a mis des petites choses comme ça, pointues.
Quelle est la part de M. Willy dans ce troisième ouvrage?
Je ne pense pas qu'elle ait été assez importante pour que je puisse là-dessus préciser un de mes souvenirs. Vraiment pas.
Je dois donc vous prêter entièrement le roman de Claudine et de Rizzi, par exemple. C'est vous qui l'avez absolument conçu, fabriqué de toutes pièces. Monsieur Willy ne vous a pas inspiré.
Bah oui, ça faisait bien à ce moment-là. Depuis, on a eu le temps et l'occasion de se blaser un peu sur ce genre de divertissement. Bilitis et autres. Mais à ce moment-là, ça faisait plutôt bien.
Vous l'avez donc fabriqué, j'emploie à dessein le mot fabriqué, pour plaire à la mode.
Disons qu'à ce moment-là, M. Willy représentait encore une grande partie de la mode pour moi.
Le personnage de Polaire, duquel vous brossez une petite silhouette, par deux fois, je crois, dans votre livre. Vous avez vraiment approché Polaire de très près?
Non, j'ai approché de très près, je ne sais pas ce que vous appelez très près. Moi, j'appelle ça une très bonne et très loyale amitié. À partir du moment où elle a voulu entrer, elle a voulu aborder le théâtre, le véritable théâtre, en dehors de son tour de chant du café-concert, eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons lié une très bonne et très tranquille amitié. Vraiment.
Je crois d'ailleurs que la silhouette de Polaire et la vôtre, à cette époque, est assez similaire, n'est-ce pas? On se représente assez la Colette d'alors et la Colette et la silhouette de Polaire.
Moi, je ne trouve pas, parce que nous étions conseillés par le même conseiller, M. Willy, et il nous achetait des robes pareilles. Puis à ce moment-là, il est arrivé que vraiment, sans trop d'arrière-pensée, mais parce que j'en avais plein le dos d'avoir, plein le dos et plein la tête, d'avoir une chevelure qui avait 1,59 m, alors j'ai coupé mes cheveux. Voilà. Mais ça ne visait pas tellement une ressemblance, ça visait une grande, non pas jalousie, mais j'aurais tant voulu avoir les cheveux courts, j'aurais tant voulu qu'un matin, vous savez, les ciseaux, ça ne pardonne pas. Et je me souviens de la peine que j'ai faite à ce moment-là, justement à ma mère. Elle a employé tout de suite ce style qui était le sien. Elle écrivait d'une façon tellement séduisante et tellement frappante. Je me souviens encore de la lettre mortificatoire qu'elle m'a écrite à ce moment-là quand elle a su que j'avais coupé mes cheveux et que je lui ai envoyé une photographie. Elle m'a dit « Tu as mal agi, tes cheveux ne t'appartenaient pas, ils étaient l'objet de mes soins depuis ta naissance, et tu as laissé péricliter un dépôt que je t'avais confié. » Ça ne m'est pas sorti de la tête, ça.
C'est assez admirable de dire pour qu'on s'en souvienne.
Voilà.
Pour quelle raison, M. Willy, achetait-il des costumes similaires à vous et à Polaire?
Pour la publicité. Vous n'êtes pas un enfant, pourtant, voyons, pour me poser des questions pareilles.
Donc,
nos auditeurs non plus.
Il trouvait donc qu'il y avait une ressemblance assez frappante entre vous deux pour qu'on puisse l'accentuer.
Oh, ce n'était pas une ressemblance, c'était simplement une similitude, une manière de rapprocher nos manières d'être coiffés encore non, et d'être vêtus. Voilà tout.
Parfait.
Sans ça, je n'avais pas l'air d'une libellule, vous savez. Tandis que Polaire avait l'air à la fois d'une fourmi à taille étranglée, d'une guêpe jaune et noire. Elle avait l'air de tout ce qui est aérien, qui est léger, ou qui est piquant. Moi, pas du tout. Vous savez, j'étais une petite bonne femme, j'avais reconquis ma santé à ce moment-là, et je n'avais pas du tout 44 de tour de taille, comme Polaire. Non, non.
Claudine voyage dans Claudine en ménage pour la première fois. Et vous nous parlez de Bayreuth, vous nous parlez de la Méditerranée. Je pense que cela a coïncidé avec des voyages que vous avez faits.
Des voyages? Contentez-vous du mot déplacement. Bref, et ça sera bien assez. Allez. On ne peut pas appeler ça des voyages.
Puisque nous parlons de Bayreuth, est-ce que vous pouvez me parler aussi un peu de musique? Vous avez toujours été très fervente de musique, n'est-ce pas?
Oui, c'était ma véritable vocation, mais heureusement j'y ai renoncé. Il y a longtemps. Nous sommes très musiciens dans ma famille. Nous étions, puisque je suis maintenant toute seule.
Mais nous étions vraiment musiciens.
Je voudrais savoir quel était alors, après la parution de ce troisième ouvrage, vos sentiments à l'égard de M. Willy.
Non, vous ne le saurez pas.
Vraiment, vous ne voulez pas faire l'effort de me répondre. Comment, à ce moment-là...
L'effort, mais ce n'est pas ça du tout qu'il faut dire. Je ne veux pas faire l'indiscrétion de vous le dire.
Est-ce que je peux vous demander alors quels étaient les sentiments que vous aviez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette servitude que vous acceptiez?
Oui, je n'étais pas fier de moi, vous savez. Il n'y avait pas de quoi.
En 1903, Claudine s'en va et Colette part aussi, je crois, à la recherche d'elle-même. Vous avez à ce moment publié depuis 1900 un volume par an. Belle production pour une toute jeune femme. À quelle étape morale et sentimentale de votre vie correspond Claudine s'en va?
Je n'ai pas très bien la mémoire des dates, ni celles qui sont historiques, ni celles qui sont sans importance comme celle sur laquelle vous m'interrogez. Je ne sais pas. Est-ce que vous le savez, vous? Non?
Je voudrais vous poser la question autrement pour que vous puissiez me donner une réponse satisfaisante. Avez-vous eu, à ce moment-là, l'intention de vous séparer de M. Willy?
Oh non, je n'avais pas besoin d'en avoir l'intention, puisque lui, il l'avait. Et d'une façon très précise et très ferme, comme il l'a prouvé.
Est-ce que je peux vous demander, à la suite de quelles circonstances, vous êtes séparé de M. Willy?
Non, d'abord, on ne peut pas me le demander. Et ensuite, je vous dis, il était extrêmement informé de ses propres intentions. Et je n'avais pas besoin de manifester grand-chose.
En tout cas, Claudine s'en va se situe, n'est-ce pas, au moment où vous êtes séparé de M. Willy?
Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas du côté de 1905? Non, c'est plus tard, je ne sais pas.
Est-ce que je peux vous demander si, dans le petit groupe d'intimes ou de familiers, dont vous nous avez déjà donné les noms, il y en avait quelques-uns, qui, dès cette année 1902-1903, ont appuyé ou sont intervenus d'une façon ou d'une autre pour que cette séparation avec Willy ait lieu?
Oh non! D'ailleurs, je crois pouvoir me rappeler d'une façon alors très précise que il n'eût pas supporté, M. Willy, que quelqu'un s'interposa et ou pour contrecarrer ou pour approuver ses intentions.
En tout cas, cette séparation avec M. Willy n'a pas eu lieu pour des motifs littéraires. Ce n'est pas vous qui avez insisté pour que cette séparation ait lieu parce que vous étiez, par exemple, ulcéré de la façon dont vous étiez traité par lui quant à votre façon d'écrire et à la façon dont il vous faisait travailler.
Je crois que ça touchait de beaucoup plus près en ce qui le concerne à des intentions de futur remariage ou tout au moins de liaison.
Peut-on dire que Claudine s'en va exprime par certains côtés une part de votre vie personnelle?
Claudine s'en va? Oh, si peu. Je veux bien vous dire que il y a eu coïncidence dans ce mince volume avec des circonstances de ma vie personnelle, mais elles sont vraiment de peu de poids. Du moins, d'un peu de poids littéraire. C'est un poids littéraire bien léger, bien léger.
J'insiste quand même sur cette question. Je n'ai pas de théorie sur la naissance de votre éthique, mais il me semble que dans toute votre œuvre, vous transposez par affabulation certains aspects de vous-même. Vos personnages, quand ils ne sont pas fabriqués, peuvent être des rêves, des aspirations, des sujets d'admiration. Leur histoire est peut-être pour vous une façon de dépasser vos soucis et votre condition, je ne sais trop. Je vous demande donc de me préciser si en écrivant Claudine en ménage, vous ne cherchiez pas à forcer le destin, par exemple, à appeler autre chose, à vous défendre contre vous-même, peut-être.
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois qu'il ne faut pas. Il faut vous garder, je voudrais vous garder. Contre vous-même. Je voudrais vous garder contre une tendance à donner trop d'importance et trop de signification, surtout à des choses qui sont
Dans ce roman, vous parlez de Claudine en ménage ou de Claudine s'en va?
De Claudine s'en va, bien sûr.
De Claudine s'en va, eh bien non, non, non. Quittez, je vous en prie, quittez cette idée que les choses relatées dans ce volume ont tant ou d'importance ou de véracité.
Il est quand même curieux de noter, n'est-ce pas, le rapport qu'il peut y avoir entre votre vie personnelle et la façon de vos romans, n'est-ce pas, leur genre, l'atmosphère qui y règne.
Je ne vois pas bien. Vous venez trop tard pour me demander des choses qui sont à la fois aussi sentimentales et aussi précises.
Je n'insisterai pas, mais je voudrais savoir où vous avez écrit ce livre, si vous l'avez écrit comme les autres, dans votre petit appartement, et de quelle façon.
Je pense que je l'ai écrit comme les autres, comme vous dites, un peu ici, un peu là, un peu dispersé.
Est-ce qu'il vous en a coûté de laisser M. Willy signer seul ce livre?
Non. Ou plutôt, ça ne se présente pas comme ça. Je n'ai eu vraiment un sursaut de ce genre que quand j'ai vu, il y a eu dans un volume qui concerne, qui s'appelle, comment s'appelle-t-il, non? Eh bien, il y a eu une page manuscrite, mais une page manuscrite qui n'était pas un manuscrit de l'auteur, si je puis m'appeler ainsi. Non, c'est une page manuscrite qui a été agencée par M. Willy avec rature, avec... oui. Alors, j'ai vu cette page manuscrite et, mon Dieu, un peu tardivement, je l'avoue, j'ai eu un sursaut. Un sursaut qui ne pouvait pas passer pour agréable.
Si je comprends bien, M. Willy avait fabriqué une page manuscrite de Claudine en ménage ou de Claudine s'en va, n'est-ce pas? L'avait travaillé de telle façon qu'on pouvait supposer qu'il était l'auteur.
Oui, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous affirmer que ce soit de Claudine s'en va ou de Claudine en ménage, mais la page manuscrite, comme vous dites, était agencée de la façon que vous dites. Disons, avec la modération que j'aime bien quelquefois dans les termes, disons que j'en ai été étonné un peu tard.
Et vous en avez fait part à M. Willy à ce moment-là?
Je lui en ai fait part. Si je lui en ai fait part, ça a été aussi avec cette modération dans les termes dont j'étais bien un peu forcé d'user, mais... Non, je l'ai dit en des termes très modérés. Et s'il me souvient bien, c'était ma réclamation portait sur le côté plastique de cette écriture, de ce manuscrit, un truc qui m'avait, comme je viens de vous dire, qui m'avait étonné.
Si je fais appel à des souvenirs, je crois que ce manuscrit a été publié par M. Jean de La Hire, n'est-ce pas, dans un de ses romans, où il présentait M. Willy d'une certaine façon.
Je ne sais pas. Non, non, pas trop d'importance à tout ça. Tout ça est sinon oublié tellement lointain.
Quel a été le point de départ du roman, votre idée de base pour Claudine s'en va?
De base? Une idée de base, ma foi, vous faites à moi et en tant qu'auteur et à ce mince roman, vous faites beaucoup d'honneur en supposant qu'il y avait une idée de base.
Vous n'êtes pas parti d'un thème, d'un schéma, je ne veux pas dire d'un plan puisque nous savons que vous êtes brouillé avec les plans, mais d'une idée essentielle que vous avez ensuite développée.
Mais non. Ça se faisait... Plutôt dans mon esprit, je crois, j'aime mieux m'accuser en respectant la vérité de penser, de vous dire que cela avait lieu par pièces et morceaux.
Eh bien, passons en revue, si vous le voulez bien, vos personnages. Je voudrais savoir si certains d'entre eux ont eu une réalité vivante. Prenons Marthe, par exemple, celle que vous appelez la marquise pour barricade. A-t-elle existé?
Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est une petite créature de pure imagination.
Et son mari Léon, son pâle époux.
Oui.
Il n'a pas davantage existé.
Oh non. Oh, est-ce que ça ne se voit pas?
Je trouve en tout cas qu'il est assez drôle de penser, avec le temps du recul, au personnage de Léon, que sa femme enfermait 4 heures par jour pour qu'il produise ses 60 lignes quotidiennes. Vous auriez voulu vous moquer de vous-même à ce moment-là, vous n'auriez pas procédé autrement.
Je suis forcée de dire que ce que vous dites là a quelque vraisemblance et que, mon Dieu, admettez que ça a été possible.
Mais est-ce de l'humour volontaire?
Est-ce?
De l'humour volontaire.
De l'humour volontaire. Oh mon Dieu, il vaut mieux pour l'humour et en toutes circonstances. Il vaut mieux pour l'humour, pour lequel j'ai assez peu de goût, il vaut toujours mieux qu'il soit volontaire. Admettons qu'il l'ait été.
Je pense que Valentine Chasseney, Rose Chou, Miss Flossie, Alain sont des personnages de pure imagination.
Fantôme.
Mais la petite Calliope, la déesse aux yeux pères, elle a vraiment quelque chose de tellement réel, je voudrais savoir si elle a existé.
Mettons que c'était une jeune femme grecque, qui était non seulement grecque, mais je me souviens d'une grande beauté. Une grande beauté, et qui vivait d'une façon qui semblait lui être facile, parce que je crois que elle était contente et de son aspect physique et de la vie qu'elle menait. Une femme heureuse, vous voyez.
Vous l'avez assez bien dépeint, n'est-ce pas?
Merci, monsieur.
Ces entretiens ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 27 février et 3 mars 1950.